Alleluia. Alleluia. Jésus, tu as frappé à ma porte. Depuis ce jour, ma vie a changé. Alléluia. 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 Tu m'as dit, c'est l'amour que j'apporte, c'est ma vie que je viens te donner. Et je chante, à toute heure et de tout mon cœur. Jésus, ma vie, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je chante à toute heure et de tout mon cœur. Jésus, ma vie, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je sais que tu es toujours là. Même si mes yeux ne te voient pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Par la foi je m'en vais n'importe où, avec toi je serai jusqu'au bout. Ma vie, c'est toi, c'est toi.
Pas que le château qui a pris un coup de neuf, il s'est fait faire un lifting là, hein, mais il n'y a pas que le château, il y a aussi la fenêtre de Rebecca. Quelle tête elle va faire, Rebecca, en voyant sa fenêtre? Je me réjouis de voir ça. C'est magnifique, hein, c'est très beau. C'est superbe. On va lire 1 Corinthiens 15, 13, 19. On peut remercier Dieu parce que vraiment, il y a eu un temps pourri tout le temps là. Juste cette semaine, là, ces derniers 15 jours, on a eu un beau temps pour les travaux. Dieu soit béni. Notre frère Francis a bronzé. Non. 1 Corinthiens 15, 13 à 19. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitaient point, Christ non plus ne serait pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes frères et sœurs, la résurrection de Jésus, de l'homme parfait. Jésus, quand il est venu sur cette terre, il est venu pour montrer qu'est-ce que c'est un homme parfait. La résurrection de Jésus, la démonstration du pouvoir de Dieu par la résurrection, a été la preuve de son triomphe final sur le corps et sur la matière. Je vous demanderai malgré tout de fermer la porte par respect pour nos voisins, parce que bon, vous avez chauffé un peu, mais je suis désolé, je ne veux pas d'ennui avec les voisins. Puisqu'ils ne sont pas gentils, ils sont de plus en plus intolérants. Eh bien, voilà, que Dieu les bénisse, mais on va les bénir nous aussi en fermant la porte, tant pis. Il y en a qui payent, hein, pour aller au sauna, alors voilà, c'est... voilà, on installera des ventilateurs dimanche prochain. Donc la résurrection, ça a été la preuve de son triomphe final sur le corps, sur la matière, sur la matière. La résurrection de Jésus-Christ, elle établit une très grande évidence. Quelle évidence? Eh bien, que la science de Dieu, elle est importante, et le mot est encore faible, pour nous les mortels. Il faut la connaître. Écoutez bien ça. Si vous croyez que vous avez une existence en dehors de Dieu, eh bien vous êtes dans l'erreur. Si vous croyez qu'il y a une intelligence, qu'il y a un entendement en dehors de Dieu, eh bien vous êtes dans une erreur qui va sur son déclin, parce que on est en train de s'approcher de plus en plus de la science de Dieu. L'homme découvre des choses extraordinaires. Et ceux qui sont véritablement savants, pas, je ne parle pas de ceux qui connaissent un petit peu parce qu'ils ont lu le dictionnaire, mais je parle de ceux qui sont vraiment des savants, pas de ceux simplement qui sont instruits et qui ont de la mémoire, mais de ceux qui sont intelligents, eh bien, ils sont obligés de reconnaître humblement qu'il y a un créateur. Maintenant, lequel? Eh bien, Jésus-Christ est ressuscité pour faire la démonstration de qui est notre Dieu. Des milliers d'hommes et de femmes sont morts parce qu'ils ont vu et ils ont témoigné, ça c'est historique, que Christ est mort et ressuscité. Nier la résurrection de Jésus est aussi grave, sinon plus, que de nier la Shoah. Alors, tous ces gens intelligents qui nient que Jésus-Christ est Dieu sont des négationnistes, et c'est une véritable honte. Dieu s'en fiche. Mais là où ça lui fait vraiment mal au cœur, c'est que ils sont en train, ces négationnistes-là, de se moquer et de souiller en marchant sur le sang des martyrs. Ils sont en train de souiller la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui sont morts parce qu'ils ont refusé de renier Jésus-Christ ressuscité. Voilà ce que c'est, ces incroyants. Parce que c'est historique, mes frères et sœurs, c'est historique. Jésus a prouvé par sa vie, il a prouvé par sa mort, par sa résurrection, que l'inexistence de Dieu, son Père, est une aberration. La Bible dira par ailleurs, c'est l'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Tout au long de sa vie, la tentation, le péché, la maladie, la mort, tout ça, ça causait aucun souci à Jésus-Christ, aucun. Les insensés pouvaient bien croire qu'ils en avaient fini avec lui parce qu'ils l'avaient tué, mais ils allaient déchanter parce qu'il a démontré qu'il est inchangé, il est toujours le même, il est encore vivant. Jésus-Christ, c'était l'homme parfait, qui avait la science parfaite, qui lui permettait de vivre une vie parfaite. Je vous parlais de tentation, de péché, de maladie, de mort. Il a vaincu tout ça. Tout ce qui nous encouble, comme on dit en Suisse, c'est pas tellement un mot nouveau. C'est un vieux mot français, hein. Voilà, vous dites par exemple, je me prends les pieds dans le tapis. Nous, on dit je m'encouble. C'est plus simple. Ça veut dire la même chose. Tout ce qui nous prend les pieds dans le tapis, la tentation, le péché, la maladie, la mort, tout ça, ça nous empêche de marcher sereinement. Lui, ça ne lui faisait rien du tout. Il a vaincu tout ça. Il a passé par tout ça. Il a vaincu tout ça. Et maintenant, il dit, je viens vivre en vous. Je viens vivre en vous. Lui, en nous, c'est l'espérance de la gloire qu'il avait, lui. Celui qui reçoit en lui Jésus-Christ est gouverné par Jésus-Christ, c'est-à-dire par le bien et non pas par le mal. Quelqu'un qui est possédé par un mauvais esprit, il est gouverné par le mal. Un jour, j'ai dit à notre sœur Camélia, la maman de Violette, « Ma parole, les inconvertis sont tous possédés. » Elle me dit « Ah, c'est ce moment-là que tu t'en rends compte. » ils sont animés par des mauvais esprits, plus ou moins méchants, mais ils sont liés, voire possédés, et manipulés. Mais celui en qui Christ vit, il est gouverné, manipulé par Jésus-Christ. Jésus a enseigné ces choses, et il nous a démontré que la vie, elle est immortelle. La vie, c'est immortel. Il a enseigné ces choses par ses paroles, il a enseigné ces choses par son vécu, il l'a enseigné à ses disciples, à des gens qu'il avait choisis pour les enseigner correctement, puis ensuite il est mort, ressuscité, monté au ciel dans une dimension qui est supérieure à celle dans laquelle nous vivons, et ses disciples, du début, sont restés sur la terre. Pourquoi ? Pour vérifier et pour démontrer que les paroles de Jésus étaient vraies. Parce que sinon, on dirait toujours, c'est formidable, ce que Jésus a fait, c'était fantastique, c'était il y a 2000 ans, voilà. Et maintenant, on attend qu'il revienne. Mais c'est un peu ce que vit le christianisme, hein. C'est un peu ce que vivent, ils vivent ça, les gens. Ils ont oublié que Christ vit en eux pour démontrer le pouvoir sur la vie, sur la mort, sur la matière, sur le péché, sur la tentation, sur la maladie, sur tout. Ils oublient. Ces disciples sont restés sur la terre pour vérifier et démontrer que Jésus-Christ, ses paroles, ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné, c'était vrai. Comme par exemple cette parole. Quelle parole ? Celle-là. Celui qui croit en moi, voici, il fera les mêmes œuvres que moi et voici même encore des plus grandes. Ils ont compris ce principe, les disciples, et ils se sont mis à chasser l'erreur, qui est de penser que, on ne peut rien faire de miraculeux, on ne peut rien faire de... on peut faire la même chose que les gens de ce monde, mais pas plus. Comment ils l'ont démontré ? En chassant les démons, en guérissant les malades, en ressuscitant des morts, entre autres, hein. Et comment ça s'est passé ? Ils l'ont appris en le voyant faire, en l'entendant. Ils ont cru ce qu'il disait. Ensuite, ils ont compris que tout ça, c'était vrai. Quand est-ce qu'ils l'ont compris ? Quand ils ont vu qu'il est ressuscité. Avant, ils n'avaient rien compris. Mais alors, rien. Si vous lisez les réflexions qu'ils font à Jésus tout au long des quatre évangiles, c'est lamentable. Je veux dire, moi, ça me rassure. Je me dis, qu'est-ce qu'ils étaient bêtes ? Eh bien, des fois, ça me fait plaisir parce que je me dis, il n'y a pas que moi. C'est vrai, mes frères et sœurs. Mais vous voyez, Jésus leur est apparu après la résurrection, puis devant eux, il disparaît. Et puis, il réapparaît. Il passe à travers un mur. Et puis ensuite, il monte au ciel. Tout ça, devant eux, ça leur a fait comprendre ce que Jésus leur avait dit auparavant. Jusqu'à là, ils avaient fait que de croire. Et nos amis les chrétiens ne font que croire, ils sont restés à ce niveau-là. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et ils sont restés là pour la plupart, croire. Mais là, le voyant ressuscité, apparaissant, disparaissant, à son gré, montant au ciel, ils ont compris, compris. Et alors, ils ont fait ce que Jésus a dit, il leur a dit, allez à Jérusalem et attendez, vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et ils ont attendu ce que Jésus leur avait donc promis. Alors le processus, c'est apprendre, croire, comprendre et être immergé. Qu'est-ce que c'est être immergé dans le Saint-Esprit ? Je fais exprès de ne pas dire baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que maintenant, quand vous dites, t'es baptisé dans le Saint-Esprit ?
Oui, je parle en langue.
Ce n'est pas le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue. C'est-à-dire dans les maisons de fous, ils parlent en langue. Hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les fait parler en langue, là. Hein. Tout est imitable. Moi, quand j'étais gamin avec mon frère, on faisait seulement de parler anglais. Anglais, parce qu'on avait vu des Anglaises qui allaient à l'hôtel juste un peu en-dessus de chez nous, puis on trouvait que c'était très intéressant. On disait, ah ouais, ça, on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Alors on faisait, on imitait, on faisait seulement de parler anglais, ça nous donnait un air très intéressant. On peut tout imiter. Parler en langue, ce n'est pas le signe comme quoi on est immergé dans le Saint-Esprit. Il faut arrêter. C'est être immergé dans le Saint-Esprit, être non plus dehors, spectateur, comme l'étaient les disciples pendant les 3 ans et demi, auditeur, comme l'étaient les disciples pendant les 3 ans et demi, connaisseur même, parce qu'ils connaissaient tout, ils avaient tout entendu. Non. C'est être immergé en Dieu et donc dans ce qu'il a fait connaître, c'est vrai, dans son savoir, dans sa science, s'être immergé dans toutes ces choses, c'est Dieu qui non seulement est avec vous, mais qui est en vous, et vous êtes en lui, vous êtes plongé dedans. Et je vous dis ça, c'est pas une formule poétique. Il faut regarder le résultat qu'il y a eu dans la vie des premiers chrétiens. C'est ça le modèle. Regardez le résultat du vécu. Quand ils ont été immergés en Dieu, ils ont pu faire les œuvres que Jésus faisait. Alors immédiatement, on pense ressusciter les morts. Non. Ils ont fait les œuvres que Jésus faisait. Alors tout de suite, on pense se faire marcher les paralytiques. Non. Ils ont fait les œuvres que Jésus faisait. C'est-à-dire, ils étaient capables d'aimer. Ils étaient capables de pardonner. Ils étaient capables d'être gentils. Ils ont pu manifester le caractère de Jésus parce que Jésus vivait en eux et le caractère de Jésus se manifestait au travers d'eux. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Mais maintenant, si vous dites le fruit de l'esprit, on a une vision très religieuse de la chose et ça ne veut plus rien dire du tout. Il faut l'expliquer pour comprendre maintenant ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ils ont pu produire quelque chose qui pouvait être agréé par Dieu. Par exemple, Dieu ne peut pas agréer l'amour tel que le conçoivent les gens qui sont animés par un esprit étranger. Désolé. C'est comme le Canada Dry. C'est une imitation. C'est bon le Canada Dry, mais c'est pas le champagne le Canada Dry. Je suis désolé, hein. Il y en a qui n'aiment pas le champagne, qui préfèrent le Canada Dry. Moi, je préfère le champagne. Cet amour, l'amour que manifestent ceux qui ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, qui est l'amour, eh bien, ils n'ont qu'une imitation de la chose, quelque chose qui ressemble. Ce que Dieu appelle un feu étranger. L'amour, c'est un feu. Eh bien, c'est un feu étranger. Rappelez-vous, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ils ont déposé sur l'autel de Dieu dans le temple un feu étranger. Enfin, ce n'était pas le temple, c'était le tabernacle. Un feu étranger sur l'autel. Un feu qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes, qui n'était pas selon les règles, les principes que Dieu avait donnés. Eh bien, un feu est sorti de l'autel, les a consumés, ils sont tombés raides morts tout de suite. Alors on dit, oh Dieu, c'est terrible, il est terrible, Dieu, pour une histoire de feu, d'allumette, de machin, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, du feu, c'est du feu. Non! Dieu veut montrer par là que c'est important de ne pas mélanger les choses. Qu'on doit être authentique. Vous voyez ça dans Lévitique 10, 1, 2. On ne joue pas aux chrétiens. On est chrétien ou alors on n'est pas. Et puis on dit, voilà, je ne suis pas chrétien, je suis un païen. Puis voilà. Mais on ne joue pas, on ne fait pas semblant. Dieu veut qu'on le serve avec ce que produit l'esprit, son esprit, et non pas ce qui ressemble à son esprit. Parce que vous avez des païens qui sont d'une patience extraordinaire, mais ce n'est pas son esprit. C'est un feu étranger. Pourtant, vous allez me dire, mais ils sont patients. Oui, mais voilà, oui. Mais vous avez des mauvais esprits qui sont très patients. Hein. Vous avez des mauvais esprits qui sont très déterminés. Hitler avait un esprit très, très déterminé. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Hein. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune détermination. Et puis, ils disent qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Il y a des esprits qui imitent tout ça. Colossiens 2, 23 nous parle de gens qui ont une apparence de sagesse, qui manifestent un culte qui est volontairement humble. Moi, ils me fichent des complexes, ces gens-là. Enfin, plus maintenant, mais au début, surtout, au début de ma vie chrétienne, moi, j'étais gêné avec eux. Oh, ils sentaient la sainteté, vous savez, comme ceux qui sentent le savon palmolive. Ils sentaient la sainteté, c'est extraordinaire. Mais ça n'a aucune valeur, pas le savon, pas le molive, hein, mais leur sainteté, n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu connaît les cœurs et il sait que, en fait, tous ces sacrifices et cette apparence de sainteté, de pureté, d'humilité, tout ça, c'est juste pour satisfaire leur ego, pour montrer, parce qu'ils sont orgueilleux, ils sont tellement fiers de montrer leur sainteté. Mais bousillez-moi cette image de sainteté, ayez une vraie sainteté, soyez normaux comme Jésus était normal. Il rigolait Jésus, il buvait un bon coup de temps en temps. Il n'avait pas cette espèce d'apparence, n'est-ce pas, de machin visqueux, religieux. faut pas manger ci, faut pas manger ça. Ah non, ça c'est pas. L'autre jour, j'étais, enfin, je sais pas. Bon, ah non, comment, mais comment pouvez-vous manger du porc? Mon Dieu. Ben, surtout, ne mangez pas, comme ça, on aura plus pour nous. La religion, les religions apostates, elles déposent continuellement un feu étranger sur l'autel. Ils ne tiennent pas le même langage. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tiennent pas le même langage entre eux. Ils ne tiennent pas le même langage que Dieu. Ils sont divisés, c'est-à-dire qu'ils sont séparés de Dieu, selon 1 Corinthiens 1, 10 à 17. Ce qui fait qu'ils sont aussi divisés entre eux, comme le diable l'est aussi. Et ça, ce n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu qui lui donne vie à la parole écrite. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, ce qui est écrit là, ben, il le vit tout simplement. C'est normal. On n'a même pas besoin de lui dire. Ça coule de source. Et puis alors, ils cherchent à sentir, n'est-ce pas, avec leur chair, ce qui en réalité est réservé à l'Esprit de Dieu qui est en eux, s'il est en eux. Ça se produisait déjà dans l'Ancienne Alliance. Vous irez lire dans Exode 30, 37. Au sujet de l'adoration, certains abaissaient l'adoration au niveau d'une jouissance olfactive parce qu'il y avait des parfums, puis alors ils essayaient d'avoir le même parfum chez eux, tout ça. Non, c'est quoi ça? Parce que, oui, alors on sent. Ils veulent toujours sentir. Vous avez remarqué, ils sont toujours en train de dire, j'ai pas senti la présence de Dieu, j'ai pas ressenti. Ils sont toujours en train de sentir. Notre adoration ne doit pas réjouir notre chair, nos émotions, ça ne doit pas nous émoustiller charnellement. La vraie adoration, le vrai culte exalte Dieu qui est en nous et non pas notre chair. Qu'est-ce qui est le plus important, le temple ou celui qui habite le temple? Alors, dans Jean 4, 23, 24, Jésus dit que c'est en esprit et en vérité qu'on doit adorer Dieu. En esprit, pas avec la chair. Pas en manifestant une exaltation charnelle, visible, auditive, et tellement gesticulatoire que finalement, ça devient olfactif parce que ça pue la transpiration. Tout ça, c'est des feux étrangers. Est-ce que vous comprenez? Pensez-vous que Jésus adorait son Père en se roulant par terre, comme dans les cultes du pasteur, révérend, prophète, machin, patin, couffin, béni-il, pour ne citer que lui? Est-ce que vous pensez que Jésus adorait en esprit, en vérité, en se roulant par terre comme ça? Pourtant, Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Si Jésus se roulait pas par terre, je ne me roule pas par terre. D'abord, je n'ai même pas envie de me rouler par terre. Mais d'où ça vient, cette histoire de se rouler par terre comme ça? Non. C'est comme Jésus adorait que nous devons adorer. Que nous devons adorer. Dans la dimension de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec votre viande, avec vos émotions, avec cette zone inférieure. Vous pouvez... Les gens veulent sentir... Ah, Michel, c'est extraordinaire, c'est miracle. Mais comment tu te sens quand tu te présentes devant les malades? Je me sens aussi mort que mon micro. Demandez à Philippe, un jour, on était tous les deux, c'était dans quelle ville? Je ne sais plus. C'est Banfora, ou je ne sais plus. Malade comme des chiens. On avait mangé quelque chose qui n'avait pas passé. Alors, c'était simple. On avait la diarrhée et on vomissait. Mais alors, c'était extraordinaire. C'était les grandes eaux. Et on avait une réunion assurée le soir, et toute la publicité avait été faite, comme à chaque fois quand on arrive, sur la guérison des les miracles que Jésus va faire. Alors on se pointe là-bas avec Nicolas, et Nicolas, il voyait qu'on était mort. Dans le bus, on était mort. Malade! Vous croyez que je sentais la présence de Dieu? Vous croyez que Philippe sentait la présence de Dieu? Arrêtez. On sentait notre bide, ouais, on sentait le mal de tête, on sentait. Puis toutes les odeurs qui vont avec. C'est une horreur! Alors Nicolas dit, bon écoutez, je vais prêcher, et puis quand ce sera le moment de prier pour les malades, ben vous viendrez comme ça, 5 minutes, faire une prière pour les malades. Oh, d'accord, vas-y. Alors, il commence à prêcher, il prêche, on entend tout ça, ça dure à peu près 40 minutes, on voit tous les gens qui s'approchent de Jésus, puis après, il dit, maintenant, on va chanter un cantique, et pendant qu'il chante le cantique, tout d'un coup, on voit notre Nicolas qui arrive vers le bus, il dit, hé, les gars, c'est à vous. Alors, on se lève, c'est une horreur, on voit des jeunes encore des frissons, j'ai des poils des jambes qui se dressent, rien que penser comme on était mal, on se sentait mal, la chair et tout. On arrive là, mais avec l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui fait le travail, c'est pas notre chair, on sent rien, on n'a pas à sentir quoi que ce soit. On a prié, le pasteur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est même venu au château, ce pasteur-là. Il a dit que 90% des gens de ce village ont été guéris ce soir-là. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de trucs. Et nous, on est retournés dans notre bus à vomir, une horreur. On n'a pas senti la présence de Dieu. Et on n'a pas à sentir la présence de Dieu. On peut faire des miracles au nom de Jésus sans sentir la présence de Dieu du tout. On n'a rien à sentir. Ça, c'est la chair, la chair, la chair, la chair, la chair. Vous, si vous attendez à sentir quelque chose, comment vous prophétisez? Comment tu ressens? On ressent rien. C'est par la foi. Amen. C'est rien. On n'a rien à sentir. C'est du péché aussi grave que celui de ceux qui fabriquaient des parfums bidons, là, ces machins dans l'ancienne alliance. C'est faux! Il faut le dire! Et surtout, je le dis pas pour dénoncer, je le dis pour encourager ceux qui ne sentent rien, mais vous êtes dans le vrai, vous n'avez rien à sentir, vous avez à croire. Amen? Vous avez à croire, c'est tout! Vous ferez les œuvres que je fais. Vous ne ferez pas du cinéma série B. Voilà. Jésus savait quel accueil son enseignement, sa science recevrait avant d'être comprise, mais ça ne l'a pas empêché, il a continué, il a rempli sa mission divine, il est mort, il est ressuscité, ensuite il est monté s'asseoir à la droite de Dieu, et ses apôtres sont allés persécuter de ville en ville. Ils ont continué à faire l'œuvre que Jésus faisait, manifestant le véritable amour, pas un amour fralaté, intéressé, mais un véritable amour. Alors, ils ont été calomniés, ils ont été lapidés, ils ont été massacrés, ils ont été emprisonnés, et les anciens se sont moqués d'eux. Tiens, déjà, oui, ça a toujours été comme ça. Ils se sont, les vieux bien établis dans leur chair, la chair, leur viande, mais aussi la chair, c'est-à-dire l'endroit où ils prêchent, ils se sont moqués de leur enseignement, de leur science. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi ils se moquaient. Parce que cette science de Jésus exige beaucoup plus qu'il n'était disposé à mettre en pratique. C'est tout. C'est tout. C'est que ça le truc. Vous savez pourquoi les païens ne veulent pas se convertir? Parce qu'ils disent, ah oui, c'est formidable avec Jésus, c'est fantastique avec Jésus, mais si je viens à Jésus, bon, il va me guérir, néani, tout ça, c'est formidable. Oui, mais il faudra que j'abandonne le péché. Donc ils ne veulent pas se convertir à cause de ça, parce qu'ils veulent continuer dans le péché. Vous savez pourquoi les religieux ne veulent pas obéir à Jésus? Parce que Jésus est très exigeant, et ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas disposés à mettre en pratique la science de Jésus, les enseignements de Jésus. Ils ne veulent pas, ils veulent simplement rester au niveau de la croyance.
Oui, je crois.
Mais voyez-vous, leur croyance depuis l'époque des premiers là, qui ont persécuté Jésus et les apôtres jusqu'à la nôtre, elle n'a jamais produit un disciple qui est capable de chasser des démons au nom de Jésus. Certains imitent ça, comme on peut imiter l'amour, comme on peut imiter avec le Canada Dry. Hein? Leurs exorcistes sont aussi un feu étranger. Vous les avez vus exorciser au nom de la Sainte Trinité? Vous les avez vus exorciser au nom de la Vierge Marie et de tous les saints? Est-ce que vous les avez entendus? Ils disent au nom de Christ, mais ils ne diront pas Jésus, jamais. Jamais. De même pour leurs miracles mensongers, ils glorifient leur dénomination, ils glorifient la Vierge, mais pas Jésus. Ah, Jésus, le nom de Jésus n'est pas exalté. Tout ça, c'est un feu étranger qui est déposé sur l'autel de Dieu. Vous croyez que ça lui fait plaisir? Non. Mais toute cette vanité, toute leur vanité, tout ça, ça les dessert eux-mêmes. Mais par contre, ça sert à élever Jésus. Parce que vous ne pouvez pas faire la différence si vous n'avez que la lumière. Vous ne pouvez pas faire la différence si vous n'avez que la vérité. Il faut qu'il y ait aussi le mensonge. Et alors on reconnaît la vérité. Il faut qu'il y ait les ténèbres, alors on reconnaît la lumière. La loi humaine condamne les œuvres de Jésus encore aujourd'hui. Mais sachez-le, Jésus condamne ce monde par sa parole, par son enseignement qu'il refuse, par sa science dont il se moque. Jésus condamne. Vous allez me dire, ah bon, mais Jésus est amour. Oui, Jésus est amour jusqu'à maintenant. Alors maintenant, c'est terminé le coup de t'apporte un feu étranger sur l'autel et puis le feu dévorant sort de l'autel et te brûle. C'est fini tout ça maintenant. Il ne fait plus comme ça. Maintenant, on est sous la grâce. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu ne bouge pas. Il ne fait rien. Il ne dit rien. Il laisse. Mais il y aura un jour où il dira, c'est assez. Et quand il dira ça, ça sera vraiment terminé. Et alors là, vous pourrez pleurer tout ce que vous voulez. Ah, mais oui, mais je n'avais pas bien compris. Tu étais resté au niveau de la croyance. Il fallait que tu comprennes. Tu n'as pas compris, c'est parce que tu n'as pas voulu comprendre. Jésus a toujours agi selon les lois spirituelles, au mépris de la matière, au mépris de la mortalité. Vous savez que je vais partir en Israël et je déteste me baigner. Et nos amis veulent absolument qu'on aille se baigner là-bas. Et moi, je crois que je ne vais pas me baigner. Je vais leur dire non et je vais aller marcher sur l'eau. Et moi, je préfère marcher sur l'eau que d'aller me trempoter dedans. Il a toujours fait au mépris des lois de la matière et toutes ces choses-là. Et la loi spirituelle le soutenait. Il y a des lois spirituelles, c'est une science. Voulez-vous être soutenu? Alors soyez remplis du Saint-Esprit qui est le consolateur. Savez-vous ce que c'est qu'une console? C'est quelque chose sur lequel on peut poser quelque chose, qui soutient. Le vrai mot c'est paraclète, qui signifie avocat, le soutien de Dieu. L'avocat c'est celui qui vous soutient alors que vous êtes accusé. Le paraclète il enseigne, le paraclète il révèle. Il secourt, il prend votre défense au tribunal de Dieu lorsque le diable vient pour vous accuser devant le trône, comme il accusait du temps de Job. Eh bien, il est là pour vous défendre, pour prendre votre défense. Le paraclète, il nous secourt auprès du trône de Dieu et ça a des répercussions ici-bas sur la terre. La loi de l'esprit est la loi du divin doit toujours surmonter les choses humaines en tout point dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la science que Jésus a enseignée et vécue, elle doit triompher de nos croyances matérielles. Analysez vos croyances matérielles. Son enseignement, quand il est entendu, quand il est cru, quand il est compris et qu'on se met à le vivre, il triomphe des fausses croyances concernant la vie, concernant la substance, concernant l'intelligence, concernant toutes ces choses. Il en triomphe. Et il triomphe aussi de toutes les erreurs qui découlent de ses croyances. Parce que vous savez, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il en est toujours fait selon notre foi. Et si vous croyez quelque chose de faux, ben il va vous arriver des choses fausses et vous allez croire qu'elles sont vraies. C'est-à-dire que vous allez utiliser un faux feu, un feu étranger, qui va vous chauffer aussi. Vous allez dire, mais regardez, ça chauffe. Mais ce sera un faux. La Bible dit qu'il y aura à la fin des faux Christ, c'est-à-dire des gens qui sont ouin, mais qui sont faux. C'est grave, ça met les gens dans une confusion terrible parce qu'ils ne connaissent pas ces principes, cette science. Alors ils se trompent parce qu'ils ne passent pas plus loin que la croyance. L'amour, mes frères et sœurs, il triomphe de la haine, la vérité triomphe du mensonge, la vie triomphe de la mort et elle rend définitive la victoire sur l'erreur. Mais encore faut-il que ça soit quelque chose qu'on vive et non pas simplement qu'on croit. C'est Jésus qui le fait, non? Quand les apôtres ont vu que Jésus partait, ils se sont mis à le faire eux-mêmes. Quand le corps de Jésus était dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits, croyez-vous que son esprit ne faisait rien? Son esprit travaillait. Il est encore allé prêcher aux morts. Quand il a fait ça, il a mis le sceau de l'éternité sur le temps. C'est fini cette histoire de temps. Arrêtez de croire ça. Il a prouvé que la vie, c'est immortel. Il a prouvé que l'amour, c'est maître de la haine. L'amour, c'est le maître de la haine. Frères et sœurs, ça n'est pas surnaturel.
que le Dieu de la nature soutienne Jésus dans sa démonstration, soutienne les apôtres dans la démonstration du pouvoir dont l'homme est véritablement doué. C'est pas surnaturel. C'est simplement que Jésus veut nous apprendre quelque chose que l'homme incroyant ne sait pas, ne veut pas savoir. La méthode de Jésus, elle dépasse la méthode des chirurgiens. La méthode des chirurgiens, c'est magnifique. Maintenant, on vous opère, on peut rendre la vue à des aveugles. Notre ami de, comment il s'appelle, là, à Verneuil, comment il s'appelle, là, qui joue de la musique et qui est opticien. Comment ? Fromenteil. Il rend la vue à des tas d'aveugles chaque année. Comment ? Ben, il y a des opérations qui sont faites, il enlève des cataractes et c'est extraordinaire. Mais c'est une autre méthode. Vous voyez ? Nous, on fait la même chose, mais avec les lois de l'esprit. Et les aveugles voient la même chose. Et puis ça coûte rien. Jésus n'exerce pas un pouvoir surnaturel. Nous autres non plus, nous n'exerçons pas un pouvoir surnaturel. Les miracles de Jésus apportent à l'homme la compréhension d'un pouvoir qu'ils ignorent, c'est tout. Mais pourquoi vouloir l'ignorer ? Les apôtres ont entendu l'enseignement à ce sujet, ils ont vu Jésus mettre en pratique cet enseignement, ils ont cru, puis ils ne sont pas restés là. Ils ont compris que c'était vrai. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont compris ? Qu'ils pouvaient le faire aussi, c'est ça la chose. Vous voyez, mes frères et sœurs, ils ont compris qu'ils pouvaient le faire aussi. Ça ne sert à rien de rester à la croyance. Même si vous croyez que vous pouvez le faire, il faut que vous compreniez que vous pouvez le faire. C'est différent. Si vous ne comprenez pas que vous pouvez le faire, vous pouvez croire, mais vous ne le faites pas. Alors, ils se sont mis à démontrer le pouvoir de la foi. Ils se sont mis à démontrer le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la patience, le pouvoir du renoncement aux œuvres mortes. Ils se sont mis à le démontrer par leur vécu, jour après jour après jour, et 2000 ans après, on en parle encore, parce qu'il s'est toujours trouvé des hommes et des femmes dans ce monde pour reprendre le flambeau et dire, « Moi, j'ai compris, je vais le faire. » Amen. Est-ce que vous êtes de ceux-là ? Aujourd'hui, si vous guérissez un aveugle au nom de Jésus, en France, hein, je ne parle pas en Afrique, c'est en Afrique, voilà. Mais en France, si vous guérissez un aveugle au nom de Jésus, vous tombez sous le coup de la loi qui interdit l'exercice illégal de la médecine. Il y a toujours eu une opposition farouche. Mes frères et sœurs, si Christ n'est pas ressuscité, on est vraiment dans l'erreur. Si Christ n'est pas ressuscité, on est vraiment dans le péché. Si Christ n'est pas ressuscité, on est des escrocs, on est des menteurs, on est des gens foutres et on est les plus malheureux du monde en plus. Mais Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Nous avons reçu son esprit. Avoir l'esprit de quelqu'un, c'est avoir sa pensée, c'est avoir sa compréhension, c'est avoir sa vie, c'est avoir son pouvoir. C'est pas simplement avoir des frissons dans le dos et puis sentir sa langue qui part toute seule. C'est ce que vous avez, mes frères et sœurs. Alors appuyez-vous sur les principes de la science divine de votre nouvelle existence en Jésus-Christ étant une nouvelle création. Et ne vous appuyez pas simplement sur les lois de la matière, sur les lois de la matière qui sont si limitées, qui sont déjà extraordinaires. Est-ce que vous imaginez qu'on peut aller maintenant prendre des photos sur Mars? Mais c'est extraordinaire. Quand on observe les lois de la matière qui est si limitée, on fait des choses extraordinaires. Mais si on observe les lois de l'esprit qui sont bien supérieures aux lois de la matière, on fera des choses encore plus grandes. Voilà pourquoi Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes. Mais qui fait ça dans les milieux chrétiens? Mais il faut le faire. Amen. Il faut le faire. Alors, apprenez, croyez, comprenez et faites. C'est pourquoi nous sommes ici-bas. Sinon, on n'a aucune utilité. On est simplement comme les gens de ce monde. On mange, on dort, on se reproduit, puis on meurt. Puis on sera les plus malheureux des hommes, parce qu'en plus, on n'a pas le droit de fumer un bon cigare.
Il y en a qui n'ont même pas le droit de boire un bon coup. Hein, les religions, il y en a beaucoup qui enseignent ça. Hein, voilà, puis on ne peut pas faire comme le monde, aller faire n'importe quoi. Des tas de choses, des tas de trucs qui font plaisir, hein, finalement. Ben non, on ne le fait pas parce qu'on a compris les lois de Christ. Amen. Alors, on n'est pas les plus malheureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est les plus heureux. Mais on est les plus heureux si seulement on pratique. Si on fait que de croire, ça ne sert à rien. On est stupide. Alors, il faut faire. Quelle satisfaction de faire les choses que Jésus nous donne de faire. Que Dieu soit béni. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus, pour la compréhension que tu nous donnes de ces choses. Et sois remercié, loué du fait que nous voulons pouvoir les vivre, les mettre en pratique, jour après jour. Merci, Seigneur, pour ce voyage que je vais faire là-bas. Je te prie qu'il se fasse des miracles encore. Je te remercie, mon Dieu, de ce que tu peux faire, des miracles. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs cherchent la science, les choses, mais des doctrines. Mais toi, ton peuple cherche des miracles. Permets qu'il puisse y avoir quelques miracles là-bas. Merci, Seigneur Jésus. Prépare aussi la venue de notre frère Nicolas, que des miracles puissent avoir lieu aussi au travers de son ministère chez nous. Merci Jésus. Amen. Amen.
Thank you. Soit.